Studio Tamani, voici les informations en français.
Mercredi 2 août 2023, il est 8h. Bamako s'est réveillé sous une grande fraîcheur et il pleut encore dans la capitale. Auditeurs, auditrices, bonjour et bienvenue à la synthèse de l'actualité matinale. Voici les titres. La commission des mines, de l'énergie et de l'eau du Conseil national de transition multiplie les actions pour que le Malien puisse profiter de son or. Les membres de la commission se sont concertés hier sur le code minier. Des avancées notoires sont enregistrées dans les différents comités mis en place pour le suivi du retrait de la MINUSMA. Les responsables de ces comités annoncent déjà la restitution de certains camps de la MINUSMA aux forces armées maliennes. La nouvelle équipe de l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL, a rencontré hier la direction de Studio Tamani. Des perspectives sont en vue. Au micro, Mariam Maïga, la mise en onde est assurée par Gagny Kanté. Pourquoi l'or ne brille pas pour les Maliens? La question était au cœur d'un atelier tenu ce mardi à Bamako. Ce séminaire d'immersion sur le code minier et le contenu local vise à mieux outiller les parlementaires en leur permettant une appropriation soutenue du contenu du texte. L'initiative est de la Commission des mines, de l'énergie et de l'eau du Conseil national de transition CNT. Mahaman Babakunta.
Il y a beaucoup d'anarchie dans l'exploitation minière au Mali. C'est ce que pense le vice-président du Conseil national de transition. Afin de garder la main sur l'exploitation de ces ressources, Asarid Ag Imbarkawan estime que cette rencontre offre l'opportunité de mieux cerner tous les contours du projet de loi sur le code minier.
Dans certaines zones, on ne sait même pas qui exploite artisanalement nos mines. Il y a des gens qui en bénéficient. Et nous ne savons même pas comment. Le Mali ne perçoit rien du tout. Et tout cela, je pense qu'avec l'adoption de ce code minier, tout cela va s'ici. Donc c'est ça l'importance de cet atelier.
Le participant de leur côté salue l'initiative. Pour Mamoudou Touré de la Commission Finance, l'adoption et l'application d'un tel code permettra de booster l'économie malienne.
Nous estimons bien que nous serons fortement outillés et nous attendons de cet atelier beaucoup d'innovation et surtout la correction des faiblesses déjà constaté à travers les autres codes miniers, parce que nous sommes à peu près à notre 4e code minier.
À noter qu'une session extraordinaire sera convoquée très prochainement pour adopter ces codes miniers dans l'intérêt des Maliens, a rappelé le vice-président du Conseil national de transition.
Et rejoignez la communauté de Studio Tamani en laissant vos critiques et suggestions sur notre page Facebook ou encore sur Twitter. Les trois comités mis en place pour le suivi du retrait de la MINUSMA se sont réunis ce mardi au ministère des Affaires étrangères. Ils ont noté des avancées dans le processus telles que la restitution de certains camps de la MINUSMA aux FAMA prévus du 2 au 15 août prochain, mais aussi l'application des plans d'atténuation de l'impact de ce départ sur le personnel malien. Une table ronde de trois jours est prévue ce mercredi 2 août avec la MINUSMA. De quoi est-il question ? Écoutons Dr Madou Diallo, directeur national des organisations internationales, au micro de Mariam Koulibaly.
Ce qui est fait déjà, c'est que les grandes dates sont connues. Il y a plusieurs aspects. J'ai parlé tout à l'heure de fermeture des camps. Il y a l'inventaire des matériels à faire. C'est du matériel militaire. Il faut faire les suivis. Il y a beaucoup de conteneurs à faire sortir. Donc maintenant, tout cela, ça se passe en coordination. Il faut veiller à ce qu'au départ de l'aménagement, ces questions environnementales puissent être prises en charge au niveau des différents sites. Quand même au moins 800 Maliens qui travaillent au niveau de l'aménagement. Et je l'ai dit, les autorités sont très sensibles à cette question. À partir de demain, c'est comme une période, c'est-à-dire que c'est du 2 août jusqu'au 15 à certaines localités, donc ce n'est pas nécessaire de vous donner tous ces détails pour le moment. Les deux parties travaillent pour que ces emprises-là, ces camps, ces sites-là passent totalement sous le contrôle de l'État malien.
C'était là la réaction de Dr Madou Diallo, directeur national des organisations internationales. Il s'exprimait sur le processus de retrait de la MINUSMA. Autre titre de l'actualité, le Mali envisage de produire 10 millions de tonnes de maïs pour la campagne 2023-2024. La nouvelle a été annoncée par le ministère de l'Industrie et du Commerce, le lundi 31 juillet dernier. L'objectif est de répondre à l'insuffisance du blé de farine, de la farine de blé plutôt, mais pour les agriculteurs, il serait difficile de parvenir à cet objectif sans faciliter l'accès aux intrants agricoles. Les détails avec Fatoumata Koudjo et Jiadata Maïga.
Le gouvernement veut mettre fin au problème structurel de la farine de blé telle que l'importation à travers une autonomisation dans la production. C'est du moins ce qu'affirme Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce.
Le Mali n'a jamais été autosuffisant en production de farine. Comment aujourd'hui assurer la production de 10 millions de tonnes de maïs par an de façon à ce que ce maïs puisse être transformé par nos usines en farine de maïs consommée par les Maliens? Nous avons des variétés de maïs qui peuvent faire 8 tonnes, 10 tonnes à l'hectare.
Cette nouvelle est bien accueillie par des interprofessionnels de la filière maïs qui se disent confiants pour atteindre cet objectif. Moussa Traoré est le président de l'Union des coopératives semencières et de la transformation des maïs de Koutchala.
Et rien que dans la zone Semnété et Odimo, nous avons 12 minoteries. Ce sont des unités de transformation du maïs et chaque unité a une capacité de transformation de 300 tonnes par an. Que le gouvernement nous facilite en acquisition d'intrants et les semences de bonne qualité. Pas de doute, les producteurs sont prêts à satisfaire ces besoins.
Dans d'autres localités comme Sikasso et Massina, des paysans saluent également l'initiative du gouvernement. Toutefois, certains expriment des réserves compte tenu des difficultés à la disponibilité de l'engrais, mais aussi de la rareté des pluies.
Sur un tout autre sujet, la nouvelle équipe de l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL, a rencontré ce mardi la direction de Studio Tamani. Au menu des échanges, le renforcement du partenariat entre Studio Tamani et l'URTEL, ainsi que des perspectives. Mamoudou Bokoum, président de l'URTEL, se réjouit du contenu de leur entretien. Il est au micro de Khalifa Gouïta.
Après notre élection le 8 juin dernier, c'était nécessaire de venir donner bonjour à un partenaire stratégique, cette équipe qui évolue tous les jours pour donner des infos crédibles aux auditeurs. Ensuite, réitérer notre disponibilité à œuvrer davantage pour maintenir cette relation. Elle est exemplaire, elle doit être solidifiée pour un lendemain meilleur. Des perspectives, notamment dans le domaine de renforcement de capacité, non seulement des correspondants de Tamani, mais aussi à d'autres radios. C'est une façon pour nous de permettre au paysage médiatique malien d'avoir des agents professionnels qui travaillent de façon professionnelle. On est satisfait de cette écoute, de cette ouverture d'esprit des responsables du studio Tamani.
On en vient donc dans notre dossier de la semaine et le sujet parle des dépenses lors des mariages. Si des hommes estiment qu'on leur demande trop d'argent au moment de l'union, des femmes refutent cette affirmation. Selon elles, les hommes ne payent qu'une infime partie du mariage. Que pensent les traditionnalistes et les sociologues des dépenses pendant les mariages? On en parle dans ce dossier de la semaine réalisé et présenté par Aïssata Diarra avec le concours de nos correspondants.
À Ségou, Bafoulabé et Niafenke, des hommes affirment que dans nos sociétés, les dépenses des mariages reviennent uniquement aux hommes. Ils souhaitent que cela change.
Chez nous à Bafoulabé, l'homme s'occupe des dépenses faites chez lui, mais également les dépenses faites chez la femme.
Le mariage, c'est l'homme qui dépense le plus. Des fiançailles jusqu'à la célébration du mariage au déménagement de la femme. À Niafunke, de façon générale.
Ici à Ségou, tout ce qu'on donne à la femme, c'est l'homme qui s'en charge. Les mariages ne se feront pas si tout revenait à la femme. Beaucoup de filles sont célibataires à cause de ces dépenses.
Certaines femmes se désolidarisent de cette affirmation. Pour elles, les trousseaux de la femme pèsent le triple de ce que l'homme dépense.
Ici à Ségou, comme disent les religieux, quand tu as la possibilité, tu dois même dépenser des milliards. On ne peut pas acheter une personne.
Les femmes dépensent plus au mariage que les hommes, car le prix du trousseau revient à la femme.
L'argent donné par les hommes ne suffit pas. C'est les femmes qui complètent.
Quand l'enfant se marie ici à Niafunke, la maman achète tout ce qu'elle doit amener.
Cependant, des rituels tels que le prix des trousseaux, l'épargne pour les aînés et autres n'existaient pas, explique Mokhtar Kone, président de Rekotrad, réseau des communicateurs traditionnels pour le développement. Pour lui, le mariage d'avant était plein de grâce, car l'union était scellée dans la simplicité.
Auparavant, la dot était symbolique. Au moment de l'union, la famille de la mariée te demande d'amener un sac de mille. Même dans la loi divine, le mariage doit être simplifié. C'est de là qu'on trouve sa grâce. Lorsque c'est compliqué, les gens s'endettent pour se marier et c'est la honte.
Le retard qu'accusent les jeunes avant d'entrer en union est l'une des conséquences directes des multiples dépenses lors des mariages, selon le sociologue Foyet Tandjigoura. Il prône la simplification des mariages pour une vie facile.
De plus en plus, de nouvelles pratiques sont greffées dans le mariage. Et aujourd'hui, les jeunes ont peur d'entrer dans le mariage, non pas par peur de la vie de couple, mais par les dépenses que cela nécessite. Si bien que les semaines qui suivent le mariage sont des semaines de ruine et souvent c'est source de tension dans les jeunes couples.
Cependant, pour d'autres, le coût élevé des préparatifs du mariage réside dans les cérémonies culturelles et traditionnelles. Pour eux, les festivités et les dépenses énormes dénaturent l'aspect solennel de l'union entre un homme et une femme.
Ainsi prend fin cette édition qui vous a été présentée par Mariam Maïga. La mise en onde est assurée par Gagné Kanté. Ne décrochez pas car l'info continue.
Voici un message pour les enfants et élèves du Mali.
Révisez et testez vos connaissances en calcul et en français. Pour cela, participez au G École à la radio sur Viamo.
C'est simple. Appelez gratuitement le 37 3 2 1 et laissez-vous guider par le service Viamo.
Tous les enfants peuvent participer au G avec l'autorisation de papa ou de maman. Vous pouvez vous servir de leur téléphone.
Le jeu École à la radio, c'est avec Studio Tamani,
le ministère de l'Éducation nationale, Viamo et l'UNICEF.
Notre magazine Toutes les femmes du Mali a pour thème autonomisation des femmes. Quel rôle pour les maisons de la femme et de l'enfant? Un sujet réalisé par Lale Tangara.
À Kay, à l'ouest du Mali, des associations de femmes œuvrent en appui aux efforts du gouvernement dans le cadre de l'autopromotion et de l'indépendance financière des femmes de la région. C'est le cas de l'association Sigidia. Sa présidente, Raki Fofana, affirme qu'elle arrive à subvenir à ses besoins grâce aux formations.
Ça nous a beaucoup aidés. Ça fait 30 ans maintenant que nous œuvrons dans ces activités et ça nous a beaucoup rapporté. J'encourage les enfants à bien suivre les formations au niveau des maisons de la femme et de l'enfant pour qu'ils puissent renforcer leurs connaissances. Du moment que le gouvernement est à pied d'œuvre pour les former, ils doivent eux aussi se donner à fond pour avoir quelque chose en contrepartie à la fin de leur formation.
À Sikasso, au sud du pays, des femmes sont formées et dotées de kits. Selon Mme Ouattara Kourotou Moussanogo, directrice de la Maison de la Femme et de l'Enfant de Sikasso, ces programmes assurent aux femmes une autonomisation.
On les a formées en AGR et on les a dotées en matériel même. Il y a des jeunes filles qui ont été formées en couture et en coiffure. D'autres aussi ont été formées en maintien d'informatique. Ensuite, tout récemment, on a eu aussi à former 20 femmes en teinture, 20 femmes en saponisation. Et jusqu'à présent, les formations continuent car la nécessité se pose.
À la Maison de la Femme de la rive droite du district de Bamako, au moins 400 personnes suivent des formations dans divers domaines. Elles aspirent toutes à une indépendance.
J'apprends le maquillage. Ça me permet d'avoir une occupation et de ne pas m'asseoir et croiser les bras à la maison. C'est aussi pour pouvoir subvenir à mes besoins. Aujourd'hui, dans le foyer, l'homme seul ne peut pas tout faire pour la femme.
J'étais dans un atelier. Je suis venu ici pour me perfectionner dans la couture afin de pouvoir faire des choses pour moi-même. Je suis ici depuis 2 semaines.
Si je finis ma formation en beauté, j'aimerais ouvrir un grand salon de beauté et aussi employer des gens. Madame Seiba Aïcha Seiba est la directrice de la Maison de la Femme et de l'Enfant de la Rive Droite. Elle affirme que toutes les dispositions sont prises pour que ces personnes puissent bénéficier d'une formation de qualité, leur assurant une indépendance financière.
D'abord, le personnel est composé de 10 agents. Dans chaque filière, nous avons 2 encadreurs. Prise en charge par les fonds propres de la maison, les 15 000 que nous prenons avec les femmes nous permettent de prendre en charge les encadreurs, de payer les kits et la tenue.
Outre la coupe-couture, le maraissage, la coiffure, la Maison de la Femme et de l'Enfant organise pour ses apprenantes des séances de sensibilisation sur les violences basées sur le genre, la culture de la paix et la cohésion sociale.